On est aujourd'hui le lundi 11 qui se lève, on est le 23 novembre. Et le cours sera aujourd'hui pour la famille Atuati David Pinchas et Chava, pour l'élévation de l'âme de Rabbi Rachel Batzina et Yehou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, ainsi que pour la réussite d'Yitzhak Ben Zina et Mahlouf Ben Yaakov, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Moshe Yehoshua Ben Yona, ainsi que pour l'élévation de l'âme, je n'ai pas le nom de son père, mais de la jeune étudiante qui a été assassinée hier. Donc, elle s'appelle Adar.
Hein?
Ah, Adar Bouchis, absolument. Adar Bouchis, bon, c'est... Oui, bon, c'est... Adar Bouchis, Tienishmata, Tsura, Betzror, Achayim. Et donc, on continue à se frayer un petit chemin de lumière dans cette poubelle qu'est le monde. Et on essaye de se boucher le nez parce qu'il pue énormément, ce monde. Mais quoi qu'il en soit, on continue. On est arrivé, donc, bon, nous on est des rabbins, on fait de la religion. On va faire semblant que tout va bien. Et donc, on était arrivé, je m'excuse. J'ai le droit de me lâcher. Comment ?
Il y a des jours comme ça.
Il y a des jours comme ça où on en a marre de la comédie, à faire semblant qu'on est religieux, qu'on y croit, que le bon Dieu va nous sauver, je veux dire.
Ça commence bien.
Comment ? Je ne sais pas pourquoi le cours de Gemara, ça m'énerve. Bah, écoutez, moi c'est mon métier, je n'ai pas intérêt à enlever la kippa, parce que comment je vais manger après ? Mais c'est vrai, hein, une petite jeune fille comme ça, 20 ans, elle prend 10 coups de couteau dans la tête, dans le cou, partout. Le bon Dieu, il est là, il regarde, je ne sais pas comment il fait. J'aimerais pas être le bon Dieu, moi je ne sais pas comment il fait, franchement. Mais, ouais, bon, les rabbins nous disent qu'on comprendra un jour. Comment ? Je ne sais pas comment il fera pour nous répondre, le bon Dieu, franchement. Une petite gosse de 20 ans, 10 coups de couteau.
J'ai toujours le souvenir de ce que vous aviez dit sur Rachel, qu'elle était inconsolable.
Oui.
Quand Hachem est allé la voir avant même pour personne.
Et... Oui, Rachel, Rachel. Bon, et j'imagine qu'il n'a plus d'un tour dans son sac, le bon Dieu. Je ne sais pas comment il va faire. Ouais. Ok, bon, nous, de toute façon... On s'occupe de religion. Donc on avait vu que quoi ? Que le Kohen, on avait vu donc qu'il a le droit de témoigner, mais on avait vu ce texte la semaine dernière, mais j'avais promis qu'on le reverrait parce qu'on l'avait pratiquement que traduit, et il y a tellement de notions incroyables dans ces 4-5 lignes qu'il faut le reprendre. Donc la Gemara s'étonne, elle dit, Méhide, quoi ? On oblige un Kohen Gadol à venir témoigner, à se déplacer au tribunal, à venir témoigner. Ve'atania, pourtant, on a quand même vu que la Torah nous autorise, ve'ita lamta, il y a un verset qui dit qu'il y a des fois où l'homme a le droit de ne pas se sentir concerné. Je ne sais pas, 10 lignes à peu près. Ve'ita lamta, page 36, pa'amim sha'ata mitalem, on voit que la Torah, c'est étonnant, la Torah parfois nous autorise à ne pas se sentir concerné par les soucis d'une autre personne. Par exemple... Quel cas ? Kohen ve'u bebet akvarot. Si un Kohen passe et qu'il voit tout d'un coup un objet perdu, mais l'objet perdu, pour pouvoir l'atteindre et le ramener à son propriétaire, ça obligerait le Kohen à rentrer dans un cimetière. Et on sait que le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, parce qu'il n'a pas le droit de contracter l'impureté de mort. Donc, le Kohen continue son chemin, et même s'il y a dans ce sac... énormément d'argent, ou même s'il y a dans ce sac des papiers extrêmement importants qui causent la ruine ou des embêtements énormes à celui qui l'a perdu, le Kohen n'est pas obligé de passer outre son devoir de rester pur pour l'autre. De même, Zaken ve'ena lefirvodo. De même, si c'est un homme très respectable qui est en train de passer. Un maître de Torah, ou un homme de haut rang, ou un homme relativement âgé, et que pour lui, commencer à s'occuper de ramener un objet perdu, c'est beaucoup trop de soucis, beaucoup trop de travail. Ou bien un autre cas, Ou bien, troisième cas, si pour pouvoir ramener ton objet à toi, je vais perdre plus d'argent que ce que je vais en ramener à l'autre. L'écart dans ces trois cas, Nehemar Veitalamta, tu auras le droit de ne pas te considérer concerné. Et donc avant de comprendre, parce que le Icar du cours va être sur ce qu'on vient de voir, et avant de rentrer dans l'âme du texte, quelle est donc encore une fois la question? De la même manière qu'on a vu que la Torah autorise, on a vu trois cas, autorise un homme à ne pas se sentir concerné par les soucis d'une autre personne, de la même manière un Kohen Gadol l'obligeait à sortir du Beth Amikdash, l'obligeait à interrompre finalement sa présence, son service, pour aller témoigner pour une personne qui aurait besoin de son témoignage, là aussi c'est pas évident qu'on va l'obliger. Alors l'Agmara accepte, ce qui est fort étonnant, c'est que l'Agmara accepte cette question et elle dit à Marav Yosef, effectivement le seul cas où on peut justifier le fait d'ordonner à un Kohen Gadol d'aller témoigner, mais Idla Meler, c'est s'il va témoigner pour un roi, ça veut dire c'est une personne qui est au moins aussi importante que lui. Donc ça ne s'appelle pas dénigrer, ça ne s'appelle pas... l'humilier que de lui demander de venir au tribunal, puisqu'il se déplace quand même pour quelqu'un d'extrêmement important. Adka. Alors évidemment, ce n'était pas le jour pour faire une gmara comme ça, parce que comme vous avez compris qu'on est très 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 mal luné, ce genre de gmara, c'est insupportable. Parce que qu'est-ce que c'est ces petites histoires de kavod, de trucs? Non mais attends, pour qui il se prend le Kohen Gadol? Ça veut dire quoi? Surtout qu'on a déjà vu que le Kohen Gadol, il est comme un idiot. Non, maintenant je redeviens sérieux. On a vu qu'il est considéré comme un idiot. Rappelez-vous tous ces cours, on a expliqué que la Keuna, c'est une fonction, Kohen Gadol. Ça veut dire une fonction, ça veut dire, encore une fois, il ne faut pas que ça te monte à la tête. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ton prochain est dans le pétrin. Donnons un exemple très simple pour monter la tension et monter la colère. Tu as été le témoin d'un vol d'une fortune. Le bonhomme, il s'est fait dévaliser ses tableaux qui valent une fortune. Chaque tableau, c'est 100 000 ou 200 000 euros. Tu es témoin. Tu peux venir et tu sais qui est le voleur. Facilitant pour montrer l'absurde apparemment de ce texte-là. Tu connais le voleur. Tu sais même où sont les tableaux. Et tu dis, non, moi je suis Kohen Gadol, je ne me déplace pas, je ne vais pas venir témoigner. Évidemment, on ne parle pas uniquement qu'un vol de sac à moto où il y avait 50 shekels ou 50 euros dans le sac, on ne parle pas de ça. Le Kohen ne se déplace pas, la Gemara tranche que quoi? Que le Kohen ne se déplace que pour un Meller. Mais il y a des fois où c'est énorme. Alors avant de compliquer, oui.
Pour un Meller, en faveur ou en défaveur du Meller? Ou les deux?
Les deux, il se déplace en faveur, il faut que l'affaire qui l'oblige à se déplacer concerne quelqu'un d'important. Contre ou pour? Mais quoi qu'il en soit, il faut que ce soit quelqu'un d'important. Alors, avant d'aller plus loin, le plus loin, on le verra après. Je voudrais maintenant d'abord comprendre, la Gemara rapporte trois cas où on n'a pas besoin de se sentir concerné. À partir de là, on veut donc construire la preuve pour le Kohen Gadol. Le premier cas, c'est un Kohen qui voit un objet perdu dans un cimetière. Et sur ça, la Torah va nous dire... tu n'es pas concerné. Le deuxième cas, c'est quelqu'un de Mechoubad, un Zaken. Zaken, ça fait allusion, Zaken, ça veut dire vieux, mais dans le contexte talmudique, Zaken, c'est le mot attribué à toute personne qui a un certain rang, un Talmid Chacham, un maître de Torah, un Tzadik, un sage, ou une personne véritablement âgée. Qu'est-ce qu'on appelle une personne véritablement âgée? Quel est le critère qu'une personne qui est vraiment âgée? C'est toute personne que les gens appellent Saba. Que les gens, quand ils ne connaissent pas leur nom, ils disent Saba, grand-père. Ça veut dire qu'il a vraiment la tête d'un grand-père. C'est lui qu'on appelle Zaken aussi. Et, ou bien le troisième cas, c'est quelqu'un qui, pour pouvoir rapporter l'objet perdu à son propriétaire, devrait s'interrompre de travailler et perdre plus d'argent que ce qu'il va en ramener. Alors d'abord, moi, je pose une question sur ce texte-là. J'ai besoin d'un verset pour ça, ou plutôt j'ai besoin d'un verset pour deux sur les trois cas. J'ai pas besoin d'un verset, c'est évident. pourquoi le Kohen qui a une interdiction de se rendre impur, pourquoi le Kohen tout d'un coup devrait rentrer dans un cimetière pour ramener un objet perdu? La preuve, c'est qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur parce que la Torah lui a interdit de se rendre impur. Et donc je vais poser une question idiote. Aurais-je le droit, par exemple, il nous est interdit de rentrer dans un temple idolâtre, d'accord? Et j'ai entendu ou je sais, on m'a rapporté que se trouve un objet perdu de quelqu'un que je connais dans un temple idolâtre. Pourquoi? Parce que cet objet perdu a été trouvé par un des fidèles de ce temple idolâtre. Il l'a amené lui-même dans le temple. Il est là-bas en sécurité. Un gentil idolâtre, ça peut arriver. Il n'y a aucune raison qu'un idolâtre soit méchant. Et donc, il a mis la valise avec beaucoup d'argent dedans ou des papiers importants, des papiers précieux pour le travail dans le temple idolâtre. Maintenant, il rencontre un juif et dit, tu sais, tu dois peut-être le connaître, voilà, etc. Viens le chercher, il est à tel endroit. Est-ce que j'ai besoin d'un verset qui me dit, tu ne rentreras pas pour... Non, évidemment, j'ai une interdiction de rentrer dans un temple idolâtre. Et on ne peut même pas imaginer un seul instant que pour aller chercher un objet perdu, je puisse rentrer dans un temple idolâtre. C'est absolument... Mieux que ça. Supposons même... On va aller beaucoup plus loin. Supposons qu'il y a une idole. C'est un cas qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Il y a une idole, et au pied de l'idole, mais une idole assez haute, au pied de l'idole, se trouve la valise. D'accord? Et moi, pour aller prendre la valise, je suis obligé de me baisser devant l'idole. Je sais qu'il y a 1 000 millions de milliards d'euros dans la valise. J'y vais ou j'y vais pas?
Il y a la Kavana.
Comment?
Il y a la Kavana.
Si le cas arrive au Ravdinovitch, il ne comprend même pas la question. Et je pense que vous aussi. Vous allez vous poser la question, est-ce que vous allez vous baisser devant une idole pour prendre 1 000 milliards de dollars? Mais franchement, quel idiot qui va faire un truc pareil? Comment? On trouvera un truc, hein, monsieur Kakoun, on trouvera un truc. Mais quoi qu'il en soit, évidemment qu'on ne va pas y aller. On n'a pas besoin d'un verset pour nous dire, tu ne vas pas te prosterner devant une statue pour ramasser une valise. Évidemment, il n'y a pas la Kavana, mais ça, on n'en a rien à faire, la Kavana. Il n'y a pas la Kavana, c'est l'acte qui compte. Chez nous, les Juifs, heureusement, chez nous, l'enfer n'est pas pavé de bonnes intentions. Au contraire, nous on juge un homme sur son action, pas sur ses pensées. Et donc à partir du moment où tu te baisses devant une statue, même si il est clair, évident, que tu n'as pas l'intention de te prosterner, rien de ramasser la valise, tu n'as pas le droit de le faire. La preuve, l'une des preuves, c'est pas une preuve à 100% ce que je dis, mais l'une des preuves, c'est que tu dois te laisser tuer plutôt que de te prosterner devant une idole. Or tout le monde sait que si tu te prosternes, c'est uniquement pour sauver ta vie. Même celui qui te demande de te prosterner sait très bien que tu n'y crois pas. Et il sait très bien que ta prosternation ne signifie rien, si ce n'est que, allez, va te faire voir, ça prend 2 secondes, je me prosterne, nekuda, et voilà. Ni toi, ni moi, on croit que je me prosterne. Et pourtant, je dois perdre ma vie. Je dois perdre ma vie pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se prosterne pas devant une idole, nekuda. Ni Marie, ni la Sainte Vierge, ni rien. On ne se prosterne pas devant une idole, nekuda. Donc, si la Torah me demande de perdre ma vie devant une idole, alors que même celui qui m'oblige à le faire sait que je n'y crois pas, à combien plus façon pour ramasser un sac d'argent? Donc, je pourrais vous apporter des millions de preuves qu'à partir du moment où la Torah, elle interdit quelque chose, évidemment que je ne vais pas enfreindre. Donc, première question sur le Kohen. Pourquoi j'ai besoin d'un verset qui me dit « Veitalamta, toi le Kohen, tu as le droit de ne pas rentrer dans le cimetière ». Mais évidemment que j'ai le droit de ne pas y rentrer. Deuxième question, c'est sur le zaken, parce que ça va être là la clé, sur le zaken, que comme je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un de mechouba, vous comprenez, je suis un talmid racham, j'ai étudié la Torah pendant 30 ans, quand je passe on se lève, j'ai 2 petits boutons derrière le dos, etc. Bon, d'accord, bon, je peux comprendre, d'accord, je me la joue et donc je ne vais pas rentrer dans un cimetière, je suis très sérieux, mais ça me rend fou, je pense que ça me rend fou aussi. Vous imaginez le scandale, Talmid Chacham, mais je ne comprends pas, moi, même Rav Obadiah Yosef, il devrait être content. D'ailleurs, tel que je peux connaître, je suis sûr que lui, c'est sûr qu'il aurait ramené la valise. Parce qu'il aurait dit à ton Talmid Chacham, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Mais je vais faire du bien à un juif. Je vais faire du bien à un juif. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans cette valise des papiers importants. Si c'est pas récupéré, c'est la catastrophe pour lui. Alors quoi, je suis Rav Obadiah Yosef, je vais pas ramener l'objet à son propriétaire, mais je suis en train de faire une mitzvah. Je suis en train de faire que je sois extraordinaire. Et vous voulez que je vous apporte une preuve que ça ne tient pas du tout, cette Gemara? Le Zaken chez nos Lefir Vodo, quelle est la preuve? Quand ce candidat à la conversion, il est venu devant Hillel, il lui a dit « Apprends-moi toute la Torah sur un pied ». Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel ? « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui ». Ça, c'est toute la Torah et tout le reste, c'est des commentaires. Et l'un des élèves de Hillel, qui était Rabbi Akiva, disait « Ve'avta le'raka mocha ». Non, c'était pas les apôtres qui ont dit ça, les Avils, c'était Rabbi Akiva, bien avant. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça le fondement de toute la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là ? S'il y en a bien un qui devrait justement ramener un objet perdu à son propriétaire, c'est Dafka le Talmid Chacham qui connaît que toute la Torah, c'est faire du bien à autrui. Donc c'est incompréhensible. Et le dernier qui est encore plus incompréhensible, je pense que là c'est celui qui nous parle le plus dans l'absurde, c'est que si pour pouvoir ramener l'objet à l'autre, l'objet qui vaut 100 euros, toi tu vas devoir en perdre 200, tu n'es pas obligé de le faire, dit la Torah. Enfin, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, tu n'imagines quand même pas que j'allais perdre 200 euros pour 100 euros de l'autre. Donc ces trois cas sont incompréhensibles. Pourquoi le Kohen se rendrait impur ? Pourquoi le Talmid Chacham ? Donc, mais ce n'est pas la même question, d'accord ? La question sur le Kohen, c'est que je n'ai pas besoin d'un verset pour me dire que je ne dois pas le faire. Pour le Talmid Chacham, ma question c'est le contraire. Pourquoi il est dispensé de le faire ? Mais c'est ça, toute la Torah, c'est de faire du bien à autrui, je ne comprends pas. Et, enfin, ça me rappelle une Gemara au début de Masechet Brachot. Au début de Masechet Brachot, la Gemara dit que, dans les psaumes, que David disait qu'il est un chassid. Alors la Gemara demande en quoi David était un chassid ? Et David disait, moi la différence entre tous les autres rois et moi, c'est que tous les autres rois, ils sont assis sur leur trône, en train de recevoir des honneurs et des compliments du matin au soir. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi ? Je le dis en hébreu, moi je passais mon temps à regarder des ktamim de Dame Nida pour être matir Isha le Ba'ala. Ça ne se traduit pas en français. Ça veut dire, voilà moi ce que le roi d'Israël, je faisais. Voilà. La matir Isha le Ba'ala, je regardais des ktamim de Dame. Ça veut dire quoi ? Alors, je ne comprends pas, pour faire du bien à autrui, tout roi qu'il était, et pourquoi il le fait ? Chazal pose une question, mais attends, on a un principe qu'un roi n'a pas le droit, les alzel birvodo, de porter atteinte à son kavod. Quelle est la réponse ? Ben, c'est une mitzvah. Il est en train de faire une mitzvah. L'atir isha le ba'ala, c'est une mitzvah. Même si l'acte en tant que tel de regarder, ce n'est pas mechoubak pour un roi, mais c'est une mitzvah. Et donc là aussi, je suis peut-être le gadolador, mais je suis en train de ramener des papiers précieux à son propriétaire. Je suis en train de te faire une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah me dispense de le faire ? Et enfin, le dernier cas, que si je vais perdre plus, je ne suis pas obligé. Là aussi, même question que le premier cas. Je n'ai pas besoin d'un verset pour ça. C'est évident qu'il n'y a aucune avamina que je devrais le faire. Alors débrouillez-vous maintenant si vous avez des questions. Alors, oui.
Il n'y a pas un principe à propos du Kohen Gadol, hein ? Il n'y a pas un principe qui dit que quand on est tenu par une mitzvah, un rassé, le lot à rassé s'efface. Donc le lot à rassé, c'est de ne pas se rendre impur. Mm-hmm. Et le rassé, c'est de faire mitzvah.
Bravo, alors, c'est ma question.
Ça s'efface pas.
Et bien justement, c'est ma question. C'est comment ?
Est-ce que, donc c'est pour ça qu'on
nous le dit. Ah non, c'est la question
c'est
à l'envers.
C'est pour ça qu'on nous le dit.
Comment ?
Parce qu'on pourrait penser ne pas avoir à nous le dire à partant de ce principe.
Ok, c'est très juste. Mais comme ça reste très formel, je vais dire ce que vous dites tout à l'heure, mais comme ça reste très formel et que j'ai posé une question très humaine, je voudrais qu'on reste dans l'humain. Je voudrais qu'on reste dans l'humain pour arriver à comprendre malgré tout. Je voudrais qu'on reste dans l'humain. Justement, c'est ce que je demande. Quelle est la avamina au niveau humain ? Après, je vais dire ce que vous avez dit. Mais c'est déjà beaucoup plus raffiné. Mais si on ne passe pas par l'aspect humain, c'est-à-dire Ben Adam le Chavero, on ne va pas comprendre. Comment ?
C'est un exemple. Le matin, le Shabbat, pour aller prier, c'est 5 km la synagogue. Si c'est pour prendre la voiture, pour aller à prier, bon, je vais faire une avère pour aller faire une mitzvah, ils vont bien rester chez lui.
Mais justement, mais c'est donc on a besoin. Mais la question est pourquoi la Torah a besoin de me le dire ? La Torah n'a pas besoin de me le dire, c'est évident que je ne vais pas prendre la voiture pour aller prier, c'est évident que je ne vais pas rentrer dans un cimetière si je suis Cohen pour ramener un objet perdu. C'est évident, au contraire. Vous ne faites que renforcer la question. Pourquoi on a besoin d'un verset ? Le verset vient nous apprendre que le Cohen n'est pas obligé de rentrer dans le cimetière. La question est pourquoi ? La question est pourquoi? La question est pourquoi? Mais... Et encore une fois, la question la plus forte, c'est comment se fait-il que, justement, que le Zaken, quelqu'un de Mechoubad, n'est pas obligé, alors que c'est une mitzvah qui est tellement importante, de faire du bien à autrui. Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas de réponse? Vous ne pouvez pas avoir de réponse, parce que c'est fou. Pour la réponse, on va la trouver dans Tosfot. Regardez ce que dit Tosfot. J'ai dit qu'on le ferait après. Mais Id, le deuxième Tosfot, tout en haut. Mais Id. Ve'atania ve'talanta. Maintenant, regardez la question que Tosfot demande. Ve'im Thomas, si tu me poses une question. Ve'lukme be'edut achodesh. On n'avait qu'à, au lieu de poser la question « Pourquoi et quand peut-il témoigner ?» Mais Tosfot dit « Il y a oui des cas où n'importe qui, même le plus mechoubad, le plus respectable des hommes, a l'obligation malgré tout d'aller témoigner. Par exemple, « Be'edut achodesh » s'il faut aller témoigner sur le fait qu'il a vu la nouvelle lune. « Devadai Kohen Gadol Me'id » là il est évident qu'un Kohen Gadol devra y aller. Des bémidés, des issoura, parce que dès que la chose touche à un issour, ça veut dire quelque chose qui est du domaine de la relation entre l'homme et Hachem, en chokhma ve en tvuna, on ne tient plus compte ni de la chokhma, ni de la tvuna, c'est-à-dire on ne tient plus compte du tout de la grandeur de l'homme, de ses qualificatifs, de ses qualités, etc. Les neged Hachem, dès que ça va contre Hachem. De quoi on parle ici, mes amis? Ici, on parle de la chose suivante. En matière de issourim, ça veut dire que quand c'est quelque chose qui ne concerne pas, on pourrait dire, l'argent ou les biens d'une personne, mais ça touche, on pourrait dire, un commandement divin, et que si je n'agis pas, il y a un commandement divin qui risque d'être profané, qui risque d'être transgressé, à ce moment-là, on ne tient absolument pas compte de qui tu es, etc., etc., tu dois agir pour empêcher la transgression. Par exemple, pourquoi c'est très important que si même un Kohen Gadol voit la nouvelle lune, il doit aller jusqu'au tribunal pour aller témoigner? Parce qu'en fonction de la nouvelle lune, on va décréter quand est Rosh Chodesh, le premier jour du mois. En fonction du Rosh Chodesh, on va décréter quand vont tomber les fêtes. Quand, par exemple, va commencer Pessah, quand il sera interdit de manger du chametz, quand on aura l'obligation de manger la mitzvah, de la matzah, quand va tomber Kippour, etc. Ce qui veut dire que, on pourrait dire, de grandes interdictions ou de grandes mitzvot de la Torah, quand c'est qu'on va entendre le son du shofar, quand c'est qu'on va rentrer dans la soukha, tout ça c'est en fonction de Rosh Chodesh. Puisque si, les conséquences sont énormes. Et donc comme les conséquences sont énormes au niveau du respect de la Torah, à ce moment-là, on a un verset qui dit « En chokhma ve en tvuna neged Hashem ». Dès que l'enjeu, c'est les commandements divins, tu ne peux pas dire « Attends, mais moi je suis quand même quelqu'un de très important, je ne vais quand même pas aller jusqu'au tribunal pour dire j'ai vu ou j'ai pas vu, etc. » De même, si, qu'est-ce qui se passe de là, on comprend, et c'est ce à quoi Tosfot fait allusion, qu'est-ce qui se passe si par exemple, vous êtes au courant de quelque chose qui est un issour, ça veut dire qui n'est pas directement lié à de l'argent. Par exemple, un Kohen sait qui est, sait que telle personne, telle femme est infidèle, par exemple. Est-ce qu'il a le droit de venir témoigner et de dire voilà, parce qu'il y a des incidences au niveau des enfants, il y a des incidences au niveau, est-ce que le mari a le droit de rester avec elle, est-ce qu'il doit donner le guet, ici la divorce, qu'il doit donner la ktouba, etc. Donc, est-ce qu'un Kohen Gadol peut aller au tribunal? Un Zaken, un Gadol Ador, peut aller au tribunal pour témoigner sur une chose qui touche ce qu'on appelle des issourim, des interdits. Il est interdit à cette femme de continuer à vivre avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est adultère. Il est interdit de continuer à croire que les enfants qu'elle va avoir sont les enfants du premier, car c'était les enfants du deuxième. Donc, est-ce que dans ce cas-là, le Gadol Ador peut dire « Attends, moi je suis le Gadol Ador, je suis en train d'étudier la Torah, donc moi je ne vais pas aller pour témoigner. Qui c'est cette bonne femme? Moi je la connais à peine. » Non. Pourquoi? Parce que comme il y a un issour, ça veut dire que c'est Neged Hachem, ça fait partie de commandements qui sont d'une certaine manière révélés par Hachem, c'est pas du domaine, on pourrait dire, de l'humain propre, c'est quelque chose que si Hachem ne l'avait pas révélé, tu ne saurais pas forcément qu'il faut le faire ou ne pas le faire. À partir du moment où c'est quelque chose qui t'est ordonné par Hachem, on ne tient pas compte de savoir qui tu es, etc. De même, si par exemple, pour pouvoir aller témoigner sur un problème de Issour, Rosh Chodesh, j'ai vu la nouvelle lune, mais je dois maintenant fermer ma boutique, le temps de monter à Jérusalem et de revenir, 2 jours de travail fermé, je vais perdre 1000 euros. Est-ce que j'ai l'obligation de le faire ou pas ? Absolument, l'obligation. Dans ce cas-là, on ne tient pas compte de l'argent. Donc, dans les 3 cas que j'ai cités, si, dans tous les cas qui sont cités ici, à partir du moment où il s'agit ici d'un issour, tu es obligé. Donnons un autre exemple. Un Kohen passe près d'un cimetière et il voit dans le cimetière, il voit un homme qui est en train d'embattre un autre. Est-ce qu'il a l'obligation de prendre le cimetière pour les séparer ? Oui, il a l'obligation. Ah, pourtant, on a dit que pour l'argent, pas. Mais là, il a l'obligation. Ou bien, s'il passe près d'un cimetière et qu'il va dans un cimetière, monsieur un tel, avec madame un tel, et il sait qu'ils ne sont pas monsieur et madame un tel. Est-ce qu'il a l'obligation de rentrer, d'essayer de les séparer ou de les raisonner ? Oui, absolument. Ah, pourtant, ils seront impurs. Tout ce qui est issour, neged, hachem, dit Tosfot, on ne fait aucune différence entre si tu es grand, tu es petit, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'argent, je suis en train de travailler, je suis en train de tuer, tu dois pourquoi ?
Pas un issour de Rabbanan.
Comment ? Rien. Obligation.
Non, un issour de la Torah.
Oui, d'abord on reste là, au niveau d'un issour de la Torah. Tu vois, un Cohen passe près d'un cimetière et il voit dans le cimetière, au loin, il voit quelqu'un, un juif qui apparemment ne sait pas que c'est Shabbat ou quoi que ce soit, peu importe, et qui est en train de faire quelque chose qui va être une profanation du Shabbat. Est-ce qu'il a l'obligation de s'en mêler, rentrer dans le cimetière, essayer de l'empêcher, etc. Moi, ça, c'est un peu plus compliqué, ce cas-là, parce que, pour des raisons un peu plus compliquées. Mais quoi qu'il en soit, disons que oui. Disons que oui. Pourquoi ? Parce que dès que ça touche un issour, dans ce cas-là, on ne fait aucune limite. Alors pourquoi dans le cas, encore une fois, d'aller témoigner sur une personne pour ses biens, pour son argent, pour ramener un objet ? Pourquoi là on me dispense ? Pourquoi on me dispense ? C'est plus compliqué. Hein ? Vous n'avez pas d'idée ?
C'est comme s'il manque un minyan, disons, dans un cimetière, elle ne peut pas rentrer
non plus ? Non. Non. Parce qu'il n'y a pas non plus une obligation qui pèse sur moi qui me dit « tu compléteras un minyan ». Ce n'est pas une mitzvah minatorah, pour répondre comme j'ai dit à Yosef. Ce n'est pas une mitzvah minatorah. Mais s'il y avait une mitzvah minatorah, ce n'est pas évident. La preuve, c'est que si un Kohen voit un mort par terre et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, il a l'obligation de se rendre impur pour l'enterrer et tout. Non, pour la Keuna, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des cas oui, des cas non, et c'est un peu plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, il y a des tas de cas où oui, ils seront impurs. Mais en tout cas, pour les deux autres, quand il faut perdre de l'argent ou pas, bien évidemment que même si je dois perdre de l'argent, je suis obligé de faire une mitzvah. Et si en fermant ma boutique pour aller écouter la Megillat Esther, je vais perdre des clients, évidemment que je dois y aller. Si je sais que j'aurai pas de possibilité, bien sûr, après. Si c'est une mitzvah overet, évidemment que je suis obligé. Si je n'ai pas de minyan dans ma ville et qu'il faut que je parte pour Rosh Hashanah à un endroit où je vais entendre le chauffard et que ça m'oblige à partir un peu plus tôt et revenir un peu plus tard et je vais perdre 2 jours de travail, bien sûr j'ai une obligation minatora d'y aller. Donc au moins 2 cas sur 3 cités ici, c'est ce qu'il dit Tosfot. On voit que quand ça concerne, on pourrait dire la volonté d'Hachem directement, on ne regarde pas si tu es quelqu'un d'honorable, on ne regarde pas si tu perds de l'argent ou pas, tu le fais. Alors pourquoi dans ce cas-là, il y a oui une différence ? Vous n'avez pas d'idée ?
Il
n'y
a pas de yomi.
Comment ?
Il n'y a pas de yomi. Il n'y a pas de par rapport à la
Mishnah. Et pourquoi ce n'est pas une mitzvah ? Je ne sais pas, ce n'est pas une mitzvah de... Je suis un Talmid Chacham, je vois un objet perdu, je ne fais pas une mitzvah, je n'accomplis pas un commandement, entre parenthèses, divin. à part le fait que je fais du bien à la personne, Beseder, mais c'est pas aussi une mitzvah. Bien sûr, c'est une mitzvah puisque c'est un passage dans la Torah. Hachef tashivenu lo. Il y a un verset en Torah qui m'oblige. Donc c'est un verset qui me dit de ramener un objet perdu. C'est-à-dire que j'accomplis un commandement comme si je mettais les tefilines. Donc pourquoi tout d'un coup il y aurait une notion de lo lefirvodo, lo lefirvodo. Il y a derrière ça une notion qui est tellement folle, qui est tellement incroyable qu'on n'arrive pas à la pondre, à la coucher, parce que, encore une fois, je veux dire, nous on sort de 2000 ans d'exil, donc on a une tête qui est complètement escamotée, une âme, je ne sais pas si on en a encore une, on est tellement, tellement convalescent qu'on n'arrive pas à comprendre l'idée incroyable qui se cache derrière un texte pareil.
Il a peut-être un lien avec
le... Je repose la question, pourquoi le Talmid Chacham, d'accord, a l'obligation de monter sur un âne, fermer sa boutique, perdre, je ne sais pas moi, 3000 euros pour aller se rendre à la ville la plus proche de son village où il va pouvoir entendre le son du chauffard, parce que ça c'est une mitzvah d'Hachem. Le même Talmid Chacham, il voit à côté de lui une valise, d'accord, dans laquelle il y a peut-être de quoi gagner, je ne sais pas moi, 100 000 euros. Il dit, ah non, moi je suis un Talmid Chacham, l'on les firvodi, moi je ne vais pas prendre cette valise, et puis allez, je vais chercher son propriétaire, il a qu'à la trouver lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Peut-être parce que
comment
le propriétaire n'a plus l'espoir de les retrouver.
Non, non, on parle qu'il y a un siman. S'il n'y a pas de siman, c'est sûr que non. On parle qu'il y a tous les critères de l'obligation de ramener un objet. Oui.
Mais les
sourires,
c'est logique, ça touche le spirituel.
Mais là aussi, c'est une mitzvah. C'est aussi un verset qui dit que le... Et de toute façon, même si vous dites ça, je comprends encore moins. Pourquoi alors Hachem est plus macpide avec son kavod à lui que faire du bien à autrui? Rabbi Akiva et Hillel ont dit le contraire. Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est le klal de toute la Torah. Nos maîtres ont toujours dit le contraire. Nos maîtres nous disent, si une personne n'est pas bien avec les hommes, s'il fait du mal aux hommes, c'est sûr que Hachem ne l'aime pas. Sous-entendu, même s'il a accompli tous les commandements entre l'homme et Hachem. Ça c'est l'alef bête pour un juif. C'est ma relation verticale se construit en fonction de ma relation horizontale. Donc comment Hachem pourrait nous dire vis-à-vis de moi, moi je m'en fous que qui vous soyez, moi je m'en fiche que vous perdiez de l'argent, je vous ai donné un commandement, vous l'accomplissez. Mais quand c'est la même chose vis-à-vis de mon prochain, alors que je peux sauver une famille de la ruine, je ne vais pas le faire parce que non, moi je suis un grand Talmid Chacham. Attention, ce n'est pas marqué que c'est interdit de le faire, tu veux le faire kol hakavod, mais tu n'as pas l'obligation de le faire. Ou bien parce que je vais... Bon, comment ?
Il a peut-être quelque chose qui le lie plus au mekouyavut du klal que du prat. Il a un devoir et ses préoccupations doivent être focalisées sur un travail au niveau du klal Israël, que c'est Israël. Et donc il n'a pas le temps de s'occuper. Il est peut-être... Il y a un décalage entre ces deux...
La même chose, aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire que tu ne peux pas aimer l'autre et te faire du mal à toi-même pour l'autre.
Bravo. Enfin quelqu'un de qui n'est plus malade. C'est dur à sortir du galout. Hein. Mais évidemment, la réponse, on l'a déjà donnée des millions de fois, c'est toujours la même réponse, mais on la reverra à chaque fois dans un cas différent, dans un texte différent. Mais on est tellement, 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 tellement peu habitué à ce genre de réponse qui est tellement fondamentalement juive, authentique, émette, humaine, réelle, constructive, parce que nous, évidemment, et je veux dire, allez, on va refaire de la politique, je veux dire, on va sauver 100 000 Syriens pour mettre en danger 50 millions d'Européens. C'est pas grave. Mais est-ce qu'on fait du bien ? On fait du bien. Nos maîtres nous ont interdit, d'accord, de faire du bien à autrui si ça te porte un préjudice à toi. C'est interdit. Attention, mais non, je l'ai dit complètement faux. La Torah ne nous oblige pas, je l'ai dit de manière très, 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 très fausse. Non, parce qu'il ne faut pas non plus que j'exagère. La Torah ne nous ordonne pas de faire du bien à autrui si ça me porte à moi un préjudice, même léger. Tu veux le faire, tu le fais. Mais c'est la différence entre un ordre et une bonne action. Ce cours-là, je l'ai déjà fait, mais on le voit aujourd'hui de manière tellement énorme, encore une fois. Ça veut dire que la Torah fait une distinction énorme entre un devoir et, on pourrait dire, un choix de conscience. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Europe, les gouvernants n'ont pas le droit de mettre l'Europe en péril pour faire du bien à des réfugiés. Pourquoi ? Parce que c'est un acte de conscience et les dirigeants ne sont ni des curés ni des rabbins, et surtout que leur conscience, elle est déjà depuis longtemps dans les toilettes avec la chasse tirée. Donc ils n'ont pas le droit de faire un acte de conscience alors que eux sont des représentants de la loi. Vous comprenez l'incidence ? Si les curés dirigeaient l'Europe, à la rigueur, si la conscience, la morale dirigeait l'Europe, on pourrait dire que, à la rigueur. Bien que même à la rigueur, ça ne peut pas être une obligation, parce que la Torah interdit de formuler ça comme une obligation. À partir du moment où...
Si une personne est en danger, on doit...
On va voir quelles sont les limites. Pour l'instant, je reste dans le klal. À partir du moment où... C'est comme toujours, un simple texte de la Gemara, c'est toute l'histoire du monde qui est derrière. Ça veut dire tout le sauvetage des civilisations, des peuples, de l'Europe aujourd'hui, etc., qui ne sera pas sauvé parce qu'elle n'accepte pas ce principe-là. Mais à partir du moment où, pour ton bien à toi, j'ai un préjudice moi, aucune loi au monde, même la divine, ne peut m'obliger. Ne parlons pas d'une loi humaine. Même la divine ne peut m'obliger. Donnons un exemple. Je veux dire, des réfugiés, ça coûte de l'argent. L'argent, c'est simplement pas ceux qui les font venir qui vont payer de leur poche. Ils vont augmenter les impôts. Donc, tu m'obliges, moi, tu me portes un préjudice à moi pour sauver. Aucune loi au monde ne peut m'obliger à subir. C'est sa question, je dis que je vais répondre. Ne peut obliger sous forme de loi à créer un dommage pour aider autrui. Pourquoi ? Parce que aider autrui, c'est un choix qui est au niveau de la conscience et pas au niveau de la loi. Quand on mélange conscience et loi, finalement, on n'a plus ni la loi ni la conscience. Comme on le sait, le bilboule, la confusion des valeurs, c'est la fin des valeurs. Donc, aucun dirigeant au monde n'a le droit. Voilà. Mais chez nous, on peut dire la même chose. D'accord. Par exemple, que si une loi m'oblige à une certaine chose qui me porte préjudice pour le bien d'autrui, c'est pas évident. Et on revient à nos fameuses histoires de est-ce qu'on a le droit, un civil, un simple citoyen, peut-il donner la mort à un terroriste, etc., etc. On en revient toujours au même problème. Dans la Torah, à partir du moment où je suis moi en état de préjudice, aucune loi au monde ne peut me demander de passer outre mon préjudice sous prétexte que je veux faire du bien à l'autre. Ça n'existe pas au niveau de la loi. Le premier qui a montré l'exemple, c'est Dieu lui-même. Il a dit, je n'imposerai pas aux hommes un préjudice pour faire du bien à autrui. Ah, maintenant, pourquoi tu m'obliges à accepter un préjudice pour te faire du bien à toi ? Puisqu'on a vu que quand c'est Issourim, on ne regarde pas si tu es quelqu'un de méroubad, on ne regarde pas si tu vas perdre de l'argent, etc. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Mais la différence est énorme. Mais là, je vais d'abord dire de manière qui est très, très, très religieuse. Après, on va arriver au cas de la vie ou de la mort. Très, très, très religieuse. Parce que, est-ce que vous pensez un seul instant que quand je fais une mitzvah, je le fais pour Hachem ou je le fais pour moi ? Non, mais franchement. Hachem, il a besoin de notre filine, il a besoin de notre kashrout, il a besoin de notre shabbat. S'il a besoin de quelque chose, c'est qu'il n'est pas complet, il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, c'est donc plus Dieu. Quand Hachem me dit « fais », pour qui je dois le faire ? Pour moi. Donc quand Hachem me dit « tu dois écouter le son du chauffard, même s'il faut que tu fermes ton magasin 2 jours avant Rosh Hashanah pour te rendre à la ville en question et revenir 2 jours après et perdre 4 jours de travail. » Qu'est-ce que Hachem est en train de me dire ? Que de toute façon, écouter le son du chauffard Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus important que les 4 journées de travail que tu vas perdre. C'est pour toi que je le fais. Parce que si tu n'y vas pas, c'est pas 4 journées de travail que tu vas perdre. C'est 365 jours de travail que tu vas perdre. Tu vas faire faillite. Un exemple pour dire avec des raccourcis. D'accord ? Sans rien dans tous les voiles de ce monde. Mais en faisant très vite. Donc, à partir du moment où Hachem me demande de faire quelque chose, je sais très bien que c'est pour moi qu'il me le demande. Mais quand je suis en train de faire du bien à autrui, je suis en train de penser que je me fais du bien à moi. Non, mais arrêtez, qu'on se la joue pas. D'accord ? Ça suffit, on n'est pas à l'église. Quand je fais du bien à autrui, je fais du bien à autrui, Nekouda. Et comme je te fais du bien à toi et pas à moi, la loi, je n'ai pas dit la conscience, la loi vient, elle me dit, même Dieu refuse de t'obliger. Pourquoi ? Parce que un monde dans lequel on commence à obliger un homme à se faire du tort pour autrui, c'est la fin du monde. Ce qui se passe aujourd'hui en Occident en est la preuve. L'origine, la religion chrétienne, qui a préparé la disparition de l'Occident, qui n'a pas su faire la différence entre la conscience et la limite. D'accord ? La conscience et la loi. C'est toujours la même chose. Alors maintenant, il y a une question ?
Il y a une remarque, je crois que j'avais vu que on avait posé une question au rabbi Chaim Ubrisk à propos du fils qui a un père malade qui habite dans un village loin, dans une ville lointaine. Et le fils, il avait posé la question, j'ai pas d'argent pour voyager, d'où est-ce que je suis obligé d'aller faire le kibboud avem chez mon père. Et je crois que le rabbi Ubrisk avait dit, tu es pas chayav. Parce que tu prends de ton argent, à moins que le père...
Tu n'es pas réel, tu n'as pas l'obligation. Si tu veux le faire, tu peux le faire.
Pour aller faire le modèle.
Ah, maintenant, c'est évident que c'est insupportable, ce genre de réponse. Pourquoi ? Parce que les hommes, aujourd'hui, ne savent plus faire la différence entre la morale et la loi. Et on confond tout. Quand je dis à quelqu'un, effectivement, tu n'es pas obligé... de fermer ton magasin pendant une semaine pour aller voir ton père qui est malade, tu n'es pas obligé. Alors ça veut pas dire que je vais pas le faire, mais si tu le fais, tu le fais parce que tu as de la conscience. Alors vous allez dire, mais on tourne autour du pot, t'as qu'à lui dire qu'il est obligé. Non, c'est pas pareil, parce que la conscience, elle ne s'oblige pas. La conscience, ou tu l'as ou tu ne l'as pas. D'accord? Non, j'avais déjà cet exemple-là, mais il est tellement, tellement beau. Est-ce que une famille de paysans français, d'accord, dans un village de France, ont l'obligation de sauver des juifs pendant la guerre ? Ils ont l'obligation ? Les juifs tapent à leur porte, sauvez-nous, ils ont l'obligation ? Non, ils ne sont pas obligés. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent d'être fusillés. Ils n'ont pas l'obligation. S'ils le font, alvaille qu'il y ait beaucoup de juifs qui aient leur place dans le monde à venir, s'ils le font malgré tout. Parce que leur niveau dans le monde à venir, c'est à côté, sur le trône divin. Mais c'est un choix lié à la conscience. C'est pas une obligation. Voilà. Maintenant, quand la loi se veut morale, à ce moment-là, c'est la fin du monde. Pourquoi ? Parce que, comme on le sait, dès qu'il y a une perversion de valeur, l'homme ne sait plus et automatiquement, finalement, on ne fait plus rien. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Dès qu'on peut échapper et à la loi et à la conscience, on ne fait plus rien. Mais il est évident que le choix, l'obligation que les dirigeants aujourd'hui européens imposent à l'Europe, c'est bien sûr pas un choix moral, c'est un choix business, etc. Un jour, on saura quel intérêt ils avaient là-dedans et on le devine déjà de toute manière. Mais quoi qu'il en soit, donc maintenant on va revenir sur chacun de ces trois cas-là et vous allez comprendre. Pourquoi le Kohen, on lui donne un verset comme quoi il n'a pas besoin de se rendre impur. Alors, justement, là on revient à ce que ça veut dire. On a un principe fondamental dans la Torah qui dit que lorsque j'ai d'un côté une interdiction et d'un autre côté j'ai une obligation, et que en accomplissant mon obligation, je fais au même moment sauter l'interdiction, l'obligation est plus forte que l'interdiction. On avait vu ça la semaine dernière. Ici, en descendant dans le cimetière, j'accomplis une obligation de sauver le bien d'autrui. Mais en même temps, je transgresse une interdiction de me rendre impur. Les deux arrivent en même temps. Qu'est-ce qui est plus fort ? L'obligation. Donc, si je n'avais pas eu le verset, j'aurais pu croire qu'un Kohen a, oui, le devoir de rentrer dans le cimetière. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il sera impur, mais au même moment, il accomplit un commandement positif. Le commandement positif fait sauter le commandement négatif quand les deux arrivent en même temps. C'est pour ça que la Torah dit, non, exception, tu n'es pas obligé. Pourquoi tu n'es pas obligé ? Tu n'es pas obligé, pourquoi ? Parce que comme malgré tout, ça te cause un préjudice, c'est que maintenant, pendant une semaine, tu ne pourras plus rentrer en temple.
Un préjudice qui est ponctuel. C'est pas un préjudice. Vous allez être ruiné.
C'est pas grave.
Fini, votre vie est finie.
Dès qu'il y a un préjudice, je sais que c'est fort.
Comme si vous lavez les vêtements, ça y est, c'est fini.
Tu as raison, Yosef. Mais comprends bien. La différence entre la loi des hommes et le Talmud, qui est une loi inspirée, c'est que la loi des hommes, elle s'intéresse au moment présent, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans maximum, mais c'est très bien que dans 20 ans, de toute façon, les mentalités vont changer, etc. La loi sera peut-être différente, comme on le voit dans tous les pays du monde. La loi inspirée, quand elle te dit oui ou non, elle tient compte de tous les cas de figure pour toutes les générations et de tous les dérivés possibles de ce cas de figure aujourd'hui. Ça veut dire, c'est ça la différence entre un maître d'Israël et un juriste laïque, c'est qu'un maître d'Israël ne peut être maître d'Israël que s'il est capable d'englober dans sa pensée tous les temps, toutes les époques, toutes les générations, tous les endroits, jusqu'à la fin et plus encore. Et donc quand nos maîtres disent, même s'il y a le moindre préjudice, tu n'es pas obligé, attention, je n'ai pas dit que tu ne le feras pas, tu n'es pas obligé de le faire, parce que nos maîtres savent, et ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui en est bien la preuve, à titre d'exemple, car des preuves, il y en a eu des millions dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où tu contrains un homme à aller contre son intérêt pour l'autre, à ce moment-là, tu dénatures la nature profonde de l'homme et finalement tu vas tout perdre, et la loi et la conscience. Mais c'est tout à fait normal. Je vais donner un exemple dans la vie de tous les jours. Pourquoi tout le monde triche dans les impôts? Pourquoi? Pourquoi tout le monde essaye de faire un maximum de noir? Tout le monde. Surtout ceux qui nous arrêtent si on le fait. D'accord? Récemment, on a arrêté un juge de la haute cour en Israël récemment. On s'est aperçu qu'il avait je ne sais pas combien de millions de noirs. Pourquoi? Mais parce que, comment tu peux m'obliger à faire quelque chose que je sais que personne ne respecte? À partir du moment où sous couvert de la loi, et ceux qui dirigent ont le droit, eux, ont tous les droits, et surtout de nous exploiter, nous, pourquoi moi je vais être le frayeur, je vais être la bonne poire? Donc je ne le fais pas. Je ne dis pas que c'est juste. J'explique comment les gens raisonnent. Ça veut dire que tu ne peux pas obliger un homme à faire quelque chose quand il sent qu'il y a un problème moral. Ça, c'est un clal fondamental. C'est pour ça que nos maîtres ont toujours fait très très attention de garder une distance énorme entre la conscience et la loi. Parce que si tu nous fais croire que la loi, elle a un souci moral, on va vite s'apercevoir qu'on est en train de se fiche de nous et finalement, on va plus rien faire du tout. Je donne un exemple dans un autre domaine. Quand pendant des siècles et des siècles et des siècles, les enseignants religieux, rabbins, curés ou autres, se sont contentés d'enseigner une religion au ras des pâquerettes sans essayer d'approfondir ni rien, d'accord ? Et qu'on entendait chez nous comme chez les autres le discours classique « il y a une épidémie, c'est Dieu qui châtie le monde parce que on se comporte pas bien ». Le jour où Pierre et Marie Curie ont trouvé le petit bon Dieu dans une éprouvette, tout le monde a envoyé en balader le bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas fait l'effort d'expliquer, de comprendre profondément les choses, quand on a vu quelque chose qui semblait être une contradiction, on a tout envoyé balader. Donc, si tu m'obliges à faire quelque chose et que tu me dis « mais parce que c'est moral », et que je m'aperçois après que ceux qui m'ordonnent de le faire sont pas si moraux que ça, je vais envoyer balader et la morale et la loi. Donc c'est très 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 dangereux de mélanger les deux. Maintenant tu veux le faire, c'est ton problème.
C'est compté comme une mitzvah?
Le choix, oui, c'est plus qu'une mitzvah encore. La conscience morale, c'est ce qu'il y a de plus haut. Puisque justement, on pourrait dire que c'est même toute l'essence même du libre arbitre. Là où j'ai obligation, tu comprends? Là où j'ai obligation, mais c'est le genre de, et ça je l'ai déjà expérimenté, vraiment, je l'ai déjà vu ce cas-là, un cas dans la Gemara, je pensais que c'était que dans la Gemara, qu'un client rentre dans le magasin, c'était un Rav Trekoun Lagma qui tenait le magasin, à cette époque-là tous les rabbins travaillaient, et donc, et quand il l'a vu rentrer, il vendait des objets qui n'avaient pas vraiment un prix fixe. On a le droit, quand c'est des objets, certains objets n'ont pas besoin d'avoir un prix fixe, c'est un petit peu la tête du client. Et donc, il voit quelqu'un rentrer selon la manière dont il est habillé, etc. Il dit, bon, celui-là, je vais lui vendre à... C'était les gars, il a le droit. Je vais lui demander tel prix. Et il s'est avéré que quoi? Que la personne, quand elle a demandé, alors combien ça coûte ces 200 $? C'était beaucoup plus encore que ce que le vendeur avait pensé le lui vendre, en voyant qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'hésiterait pas à payer le prix fort. Et bien malgré tout, il s'est dit non, c'est pas ça. Il lui a donné le premier prix qu'il avait dans la tête, 100. Maintenant, est-ce qu'il était obligé de le faire? Jamais de la vie. Parce que de ma bouche n'est pas sorti un prix. Tu me dis 200, je pouvais te dire 200. D'accord? Il n'y a pas de problème. Comme certains services qui ont le prix, on pourrait dire, ponctuel de l'arrangement entre le vendeur et l'acheteur. Comme très souvent dans les sociétés de services,
voilà,
etc.
Pensées,
mais non, mais c'est un choix moral. C'est pas une obligation.
On ne juge pas sur les pensées, sur les actes.
Mais c'est ce que j'explique. Il n'était pas obligé, d'après la loi. Mais il l'a fait. Son niveau est infini face à Hachem. Mais encore une fois, c'est un choix de la conscience, pas un choix de la loi. La loi, il n'était pas obligé. Alors évidemment, quand tu vas dire à un abruti aujourd'hui qui ne comprend rien à ce qu'on explique, non, le judaïsme n'oblige pas à rester sur le premier prix qu'il avait dans la tête. Oh, c'est pas moral, mais évidemment, mais on t'a jamais dit que c'est un problème de morale, c'est un problème de loi. La loi ne l'oblige pas. Maintenant, s'il veut rester sur le premier prix, mais c'est sûr que c'est très très haut. C'est extrêmement haut. Mais il n'est pas obligé. Ce qui veut dire que s'il ne le fait pas, on ne dira pas non plus qu'il est hors la loi. Ça arrive souvent, ça. Je veux dire, dans l'immobilier, par exemple, je veux dire, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, un agent immobilier qui est venu me voir, et j'en revenais pas, je pensais que c'était que dans la Gemara, des histoires pareilles. Un agent immobilier qui est venu me voir, et qui m'a dit, voilà, je veux dire, je suis tombé sur des clients qui me demandent, qui sont prêts à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'idée que l'acheteur et moi on avait dans la tête. De eux-mêmes, ils ont proposé un prix, ils sont très précis, ils veulent absolument, c'est exactement ce qu'ils veulent, l'endroit qu'ils veulent. Et ils proposent une fortune de plus que pour sûr que leur appartement, c'est apparemment des gens très riches, ils ne veulent pas que leur appartement les réchappe parce que ça correspond à tout ce dont ils ont besoin. Il est venu me voir, l'agent immobilier. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je vais selon leur prix ou selon la négociation que j'avais eue avec... Je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous me demandez la loi est qu'évidemment vous allez selon leur prix à eux, ceux ils sont prêts à payer ce prix-là, d'accord? Mais finalement, il m'a surpris ce bonhomme-là, il est arrivé à convaincre son client que ça n'allait pas leur porter bonheur, et ils l'ont vendu au premier prix qu'ils avaient décidé entre eux. Quand tu rencontres un type comme ça sur Terre, je te dis, je veux dire, tu prends tous les rabbins, tous les sadikim, tu prends tous les mekoubalim, tu les mets dans ta petite poche, et encore s'il y aura encore de la place. Ça, c'est un vrai sadik, parce que ça, c'est l'épreuve ultime d'un homme. Surtout que la différence était énorme, 300, 400, 500 000 shekels, j'en sais rien, la différence entre les deux prix. Tu t'imagines? Et donc, mais il a fait un choix moral, il n'a pas fait un choix de loi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important de faire la différence. Oui, mais c'est très haut niveau d'Hachem. Je veux dire, il a perdu 500 000 shekels dans ce monde, mais je veux dire, on le regardera de loin, là-haut, tu sais, oui, c'est lui, là, tu vois, là-bas, c'est l'ombre de lui, je dirais.
Sur la vie.
Comprends. Alors maintenant, donc, on a bien compris, non, je veux juste ces trois cas, et après je passe sur la vie, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Donc le Kohen, on a expliqué. Le Talmid Chacham, c'est pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous avait énervé? On avait dit, mais le Talmid Chacham, par excellence, il devrait au contraire dire, je fais une mitzvah, je ramène. La réponse est que non, c'est pas une question ici, si, mais c'est sûr que... C'est pour ça que je vous ai piégé en disant, je suis sûr que Rav Obadia, connaissant son amour qu'il avait pour les hommes, etc., c'est évident que lui, sans aucune hésitation, il prendra même une brouette s'il faut pour... ou le Rabbi Lubavitch. Vous imaginez Rabbi Lubavitch passer devant une valise, oui, c'est sûr qu'il y a de l'argent dedans ou des papiers de trucs. Il va dire, non, je suis Rabbi Lubavitch. Vous imaginez? Mais évidemment qu'il va le faire. Mais est-ce qu'il est obligé de le faire? C'est ça l'astuce, le piège qu'il y a dans la Gemara. Que nos maîtres veulent nous habituer à avoir ce réflexe. Loi, conscience. Loi, conscience. Évidemment qu'au niveau de la loi, mais il n'est pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que le Rabbi Lubavitch n'a pas à perdre son temps. Il est trop occupé. Ou c'est avec une valise. Là, c'est pas son truc. Mais s'il veut le faire, mais vadaï que c'est un acte extraordinaire. Et pareil pour l'histoire de perdre 200... Pour sauver 100. Évidemment que là aussi, s'il veut le faire, il pourra le faire. Pourquoi? Parce que peut-être que 200 pour toi et 100 pour lui, C'est 100 pour lui, c'est peut-être 1000 pour toi.
Alors donne-lui 100, on n'en parle plus.
Comment ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que au niveau de la loi, même s'il s'avère que mes 200 à moi, c'est comme 10 000 pour lui, plutôt que c'est 100 à lui, c'est comme 10 000 pour moi. Donc pour sauver 100 à lui, on aurait pu croire que tu es obligé de perdre tes 200. Parce que tes 200 à toi par rapport à sa perte à lui, c'est rien. On t'apprend, non. Même si c'est vrai que pour lui qui est très pauvre, 100, c'est comme 10 000 pour toi, on ne t'oblige pas à perdre 200 pour ses 100. On ne t'oblige pas. Mais si tu fais ton enquête et tu te rends compte que ces 100-là, pour lui, c'est comme 10 000 pour toi, et que tu décides, toi, selon ta conscience, de les lui rendre, c'est ton problème. Et surtout, ta place aux côtés du bon Dieu dans l'autre monde. Mais ça, c'est ton choix à toi. Maintenant, on va arriver au cas le plus difficile que je gardais pour la fin, parce que ça, c'est le plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dois me porter, moi, préjudice d'argent, de temps, peut-être même de me blesser un petit peu, etc., pour sauver quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un côté, on a un verset qui dit « Velo ta'amod al dam re'acha ». Tu n'as pas le droit de rester sans rien faire quand tu vois que le sang de ton frère va couler. Ce qui s'est passé hier avec le grand Chaim Messika, d'accord, il voit une terroriste se jeter avec un couteau sur un soldat qui apparemment n'était pas attentif et qui l'aurait pris en pleine figure. Il était au volant de sa voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il met à plein fond et il la renverse, d'accord. Bien sûr, Abbas a dit que c'était un acte, comment on dit, un crime contre l'humanité. Barbarie sans nom, vous vous rendez compte, il a osé renverser une jeune palestinienne qui ne faisait que passer par là. Sauf que toutes les caméras montrent qu'elle a un couteau et qu'elle se jette sur le soldat, mais enfin lui apparemment il voit seulement ce qui l'intéresse. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant il s'est mis en danger, vous avez vu la voiture? La voiture il l'a abîmée, mais d'accord, oui. Elle est tombée dans le fossé. Lui-même il n'est pas sûr de ce qui va se passer quand il fonce à toute vitesse, il peut très bien être blessé. Ce qui est sûr c'est que de toute façon un dégât il a. Comment ?
Il est menacé de mort maintenant.
Et menacé était déjà avant, mais à plus forte raison que de toute façon maintenant sa vie est en danger aussi. Donc, il avait le droit, le devoir ou le choix ? Je pose la question de le faire. Le droit de le faire, parce que peut-être qu'il n'a pas le droit de le faire, de se mettre en danger. Ou le devoir, l'obligation de le faire, ou le choix, il fait ce qu'il veut. Lequel des trois ?
Devoir,
bravo. Velo ta'amol al dam re'echa. À partir du moment où tu vois la vie de ton frère en danger, tu ne fais pas de calcul perte d'argent, tu ne fais pas de calcul tu risques de te blesser, etc. Tu fonces. D'accord ? Maintenant, alors, un autre cas, tu entends au secours, je me noie. D'accord ? Tu sautes dans l'eau si tu sais nager, bien sûr, parce que si c'est pour avoir deux noyés, qu'est-ce qu'on a gagné ? Tu sautes dans l'eau et tu sauves. Ah, je saute dans l'eau ! Mais attends, c'est l'hiver, l'eau est froide, je vais peut-être avoir une pneumonie, et va savoir peut-être le courant est fort, je ne vais pas commencer à mesurer et voir si je saute ou je ne saute pas. Je saute, puis je parle de quelqu'un qui sait nager, bien évidemment, qui sait même bien nager, selon ce qu'il voit. Mais malgré tout, ce n'est pas évident que ça va être facile, je vais mettre peut-être en danger. Je saute, obligation. Velo ta'amod al dam re'acha. Maintenant, d'un autre côté, on a apparemment un texte qui contredit ça. C'est le fameux texte de Chayecha Kodbim, ta vie passe avant. C'est quel, bien que c'est loin d'être une contradiction, mais seulement pour mieux affiner les choses. On est tous les deux dans le désert. Moi j'ai une gourde, toi tu n'as pas une gourde. D'accord ? Si je bois ma gourde sans la partager, moi je suis sûr d'arriver au prochain village et de m'en sortir. Si, mais toi tu meurs. Si on partage la gourde, on meurt tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, cas basique, talmudique, mais de là, vous pouvez imaginer tout ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que je fais? D'accord? On est tous les deux en prison, on reçoit une ration qui est telle que de toute façon, une chance sur 100 de s'en tirer. Toi, tu as été puni et tu n'as pas de ration pendant 3 jours, d'accord? Est-ce que je partage le peu que j'ai? Ça s'est posé, ça se pose, se posera encore des milliards de fois. Je partage ma ration, mais c'est pratiquement sûr qu'on y passe tous les deux. Ou bien je mange le peu qui me tient à peine en vie, et puis bon, tant pis, de toute façon, mieux vaut un peut-être vivant que deux morts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur ça, la racha est, au niveau de la loi, je dis bien, de la loi, chayecha kodmim, ta vie passe avant. Voilà. Maintenant que dans toute l'histoire, y compris dans les prisons, dans les camps de concentration, dans les ghettos, les juifs ont passé tout le peu de vie qu'il leur restait à partager, c'est évident. Mais c'est un choix moral, c'est pas la loi. C'est-à-dire que la loi ne t'oblige pas à le faire. Chayecha kodmim. Donc, alors là, est-ce que ça contredit le premier cas où on dit « Velo ta'amod al-damecha, ne reste pas sans rien faire lorsque tu vois le sang de ton prochain ?» Alors évidemment, la question est idiote, ce n'est pas du tout le même cas. Dans le cas de « Lo ta'amod al-damecha », c'est dans un cas où je sais, à part vraiment une malchance absolument incroyable, je sais que je ne vais pas mourir, mais je vais perdre de l'argent, je vais peut-être être blessé, comme le cas de Chaim Messika, etc. Il a peut-être été blessé d'ailleurs, peut-être qu'il a pris un choc avec sa tête, peu importe. Blessé, perte d'argent, etc. Et ça, tu es obligé. Mais quand c'est sûr que pour te sauver, je vais mourir, ou c'est presque sûr, c'est-à-dire que, on va d'après le Rov, d'après la majorité des cas, dans ce cas-là, la loi ne m'oblige pas à me sacrifier pour toi. D'accord ? Donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on a malgré tout trouvé apparemment une contradiction. On a trouvé un cas où je viens de dire que jamais la loi ne m'oblige à me mettre en danger, à me poser un préjudice pour toi. Et là, on voit que oui, la loi me demande de me porter un préjudice, elle m'oblige pour toi. Quelle est la différence ? La différence est grosse comme une montagne.
C'est la vie
et là-bas c'est les biens, voilà, c'est les biens. Ok.
Mais là c'est là-dessus qu'ils jouent pour les réfugiés.
Voilà. Mais comment?
Pour les réfugiés, ils jugent que leur vie est en danger et qu'ils veulent sauver leur vie.
Oui. Sauf que ce sont de grands menteurs puisqu'ils savent très bien que quoi.
S'ils restaient là-bas.
Oui, mais d'accord. Mais combien de Français sont morts à cause de deux Syriens? Combien de Français sont morts à cause des Syriens? Ça fait combien de jours que la ville de Bruxelles, ils sont tous dans leur maison cloîtrés de peur de prendre une bombe chimique dans la figure à cause des Syriens? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi mes enfants, ils valent moins bien que les tiens? Donc, la même semaine, la réponse, elle a été donnée par la Providence. Ce que ça vaut, leur histoire, zéro. Parce que les 200 morts du Bataclan, qui c'est qui va la ramener? Les Syriens vont les ramener. Donc, et c'est deux Syriens. Et entre autres, mais de toute façon, même ceux qui sont pas
Syriens. C'est pas ça, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer.
Non.
Pas, celui-là, c'est l'ordre.
On parle de loi, Yosef, encore une fois, Yosef. On parle de loi, pas de conscience morale.
Non, mais là,
on parle de dirigeant, encore une fois. On tombe toujours dans le piège. La loi, ça veut dire c'est un choix obligatoire qu'on m'impose. Moi, je suis français, je veux adopter des jeunes enfants syriens sur mon compte, sur mon argent. Je veux adopter, pas forcément parce que j'ai pas d'enfant, je veux recevoir chez moi une famille ou deux, je suis vie à la campagne, j'ai une grande ferme, je veux la transformer en arsania, en auberge, etc. Mais tu es le saint des saints, tu es le saint-père de la génération, tu es le Kohen Gadol de la génération. C'est ton choix, personne t'empêche. La loi, c'est quand c'est les dirigeants qui imposent. C'est toujours le même problème, la loi, tu n'as pas le droit. Parce que la loi doit tenir compte d'une réalité qui, même si ça fait mal sur le plan moral, il y a une réalité. C'est toujours le même problème, c'est que le monde occidental, justement à cause, et en directement lié à la religion chrétienne, a préparé sa tombe. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne est la religion par définition qui confond la loi et la morale. Ça veut dire si c'est moral, il faut le faire. Non! Non, ça ne marche pas forcément aussi simple que ça.
On ne peut pas dire le contraire.
Comment?
La Torah et la halakha, les dinim de la Torah, si on s'y adapte mamash, on va vers une conscience où on est complètement méchoir badim à la Torah et au din Torah. Ça va nous amener à forger... Et à éduquer notre conscience qui est simplement...
Je suis 100% d'accord. La loi, elle permet de former les garde-fous, où tu sais, voilà la limite qu'il ne faut pas dépasser. À l'intérieur, c'est à toi maintenant de dévoiler ta conscience. Je dirais, si c'est comme ça, que la loi est le corps et la conscience est l'âme. Voilà. Tandis que si tu enlèves la loi, Alors, ça, tu ne peux plus avoir de conscience non plus. Pourquoi ? Parce qu'une âme sans corps, c'est une âme morte.
Alors, qu'est-ce que c'est l'ifnim mishurat hadin ?
La conscience. Ouais. C'est justement ça. Je décide d'aller au-delà de ce que la loi m'oblige à faire. Conscience. C'est, on pourrait dire, ici, une fois de plus, on touche, on pourrait dire, l'essence même du judaïsme. On est la seule religion au monde qui a su poser véritablement les normes, les limites, les critères entre la loi et la conscience. D'accord ? La chrétienté n'est que conscience morale, dans le bon sens du terme, je ne dis pas de manière ironique ou péjorative, elle n'est que conscience. Elle a complètement oublié la loi, donc elle a tout perdu, et la loi et la conscience. L'islam n'est que loi. C'est les deux extrêmes. Et au milieu, le judaïsme, qui dit la loi, oui, mais à l'intérieur, la conscience. C'est et donc le corps et l'âme.
La phrase, donc, on peut l'adapter, on disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on pourrait dire « la loi sans la conscience n'est que ruine de l'âme ». Non.
La loi, non, j'aurais dit « la loi sans conscience est la ruine du corps, et la conscience sans loi est la ruine de l'âme ». Pour aller d'Afka dans le sens de mon cours, une loi sans conscience et la ruine du monde, d'accord ? Et c'est pour ça que l'islamisme détruit le monde. Une conscience sans loi, c'est aussi la ruine du monde, mais on pourrait dire que c'est une implosion, ils s'auto-détruisent. Et la vérité, c'est une loi, corps, à l'intérieur de laquelle tu mets une conscience, âme. Et nous, ça fait 4000 ans qu'on essaye de l'avoir, en vérité, cette Torah. Mais on patauge pas mal dans le médiocre et dans le n'importe quoi aussi. C'est ça l'exil. Ah, maintenant, je reviens maintenant. Et on termine. Alors, maintenant, une dernière question, mes amis. On a vu. Quand c'est pour les biens de l'autre, la loi ne m'oblige pas à me porter un préjudice, même minime. Quand c'est pour la vie de l'autre, la loi m'oblige à me porter un préjudice, même conséquent. Perte importante d'argent, voire même blessure, etc. Maintenant, si je vois mon ami qui est dans un cas où il n'est pas en danger de mort, mais en danger de blessure, est-ce que je dois intervenir en sachant que je vais peut-être être blessé moi aussi ? Typique, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui est en train de se faire tabasser. Tout de suite, tu vois qu'il ne s'agit pas ici de gens qui veulent tuer, mais bon, c'est une rixe entre des petits voyous, des petits délinquants. Tu sais te battre, mais ils sont quand même 5 ou 6, d'accord ? Est-ce que tu rentres dans le tas pour sauver la personne, en sachant que c'est sûr et certain que tu vas prendre des coups, même voire des mauvais coups ? Je demande, obligation, devoir ou choix ? Même chose. Obligation, devoir ou choix ? Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est pas obligation.
Choix, moi je dis.
Comment ?
Choix.
C'est pas obligation. Parce
que là, il n'y a plus la vie en danger, donc on peut avoir le choix. Mais...
choix. Les deux...
D'abord, est-ce que c'est interdit de le faire, d'y aller ?
Non.
Non. Non. Enfin,
que non. C'est pour ça que c'est
non.
Choix.
Donc c'est choix ou obligation ?
Choix. Choix.
C'est choix, c'est pas obligation. À partir du moment où l'autre n'a pas sa vie en danger, bon, c'est pas toujours facile d'évaluer si la vie est en danger ou pas. Je suis d'accord. Ça reste très théorique parce que c'est pas évident d'évaluer. D'accord ? Mais disons que si tu es pratiquement certain que ils sont en train de se cogner un point, c'est tout. Dans ce cas-là, si tu y vas, c'est un choix. C'est pas une obligation. Mais tu peux passer à côté et l'autre t'appelle, mais viens m'aider. Attends, j'ai pas envie de rentrer à la maison avec un maillot noir. D'accord ? J'ai pas envie d'avoir une dent cassée. Mais enfin, t'es dégoûtant, mince alors, et moi les miennes. Écoute, ouais, tiens, c'est pas les miennes. Obligation ! Maintenant, si tu as de la conscience, tu vas te faire casser les dents aussi. Mais c'est ton choix, c'est pas une obligation.
J'ai une question. S'il y a 100 000 dans
un immeuble. C'est intéressant tous ces cas-là. Hein.
Il y a 100 000 dans un immeuble qui est en train de brûler.
Oui.
Et vous savez que dans les 100 000 personnes,
oui,
il y en a deux qui sont des pourris, des ordures. Vous les sauvez pas ? Pas les
bien
deux,
sûr,
les 100
000. Ah, bien sûr que tu sauves tout le monde.
C'est exactement le cas des réfugiés.
Comment ?
Ils savent qu'il y a 600 000 réfugiés.
Okay. Il n'y en a pas dedans.
Ah, mais non, parce que vous oubliez toujours la même chose. D'accord. Alors, je vais répondre à la même histoire. Pourquoi 100 000 ? Il y a un immeuble, il y a 100 personnes dedans. même 100 000, allez.
Parce qu'ils ne peuvent pas tuer
100 000. Ok, ok, 100 000. Je sais que dans ces 100 000, il y a deux terroristes, parce qu'ils me l'ont dit, hein. Ils me l'ont dit, Daesh l'a dit, hein. Il y a deux terroristes qui, dès qu'ils vont passer, vont mutiler des femmes et des enfants. Je sauve les 100 000. Interdit.
On laisse mourir les 100
000. Et Sodome, Abraham et Sodome et les négociations avec
Hachem. Les gars, je réponds. Interdit. Pourquoi? Parce que, attends, c'est pas moi qui ai allumé le feu.
D'accord,
très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant obliger, puisque on parle d'obligation, c'est un choix d'État. Je vais obliger maintenant, d'accord, des jeunes filles, des jeunes hommes, des femmes, des parents, des enfants, à porter le deuil ou la mutilation toute leur vie pour faire un sauvetage qui, je sais, va se transformer en massacre chez moi. Interdiction. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit, pour sauver 1000, de mettre 10 000, 100 000, 1 million en danger.
C'est ça qu'on parle. 600 000 pour en peut-être comme les
200. Mais c'est pas peut-être, parce que une bombe. Mais parce que j'ai expliqué. Mais Yosef, vraiment je suis étonné. Yosef.
Non,
ils viennent. Yosef, ils viennent de découvrir. Mais non, ils savent qu'ils mentent. Puisqu'ils sont pas moins intelligents que moi. Ils en savent plus que moi sur les données. Ils viennent de découvrir une cache d'armes chimiques et biologiques à Bruxelles. Ce qui veut dire une arme, 300 000 morts. Ouais. Plus que tous les réfugiés réunis. Une seule bombe. Ils viennent de le découvrir. Donc ce n'est pas une question maintenant quantitative, c'est qualitative. Un Daesh peut tuer 300 000 personnes. Un seul, avec une bombe, il se fait sauter avec. En plein Saint-Maritaine, en plein Galerie Lafayette. D'accord? Une bombe biologique. Et ils l'ont dit qu'ils vont le faire. Et ils n'ont jamais menti. Donc, là, quel est mon problème? J'ai 100 000 devant moi. Et j'ai une bombe biologique que je fais exploser chez moi si je sauve 100 000. Interdiction. Ils l'ont dit qu'ils allaient le faire. Et maintenant, on peut rajouter, et ils le feront. Maintenant, vous voulez qu'on reprenne cette discussion après les gros titres de journaux, 300 000 morts en Europe? Vous voulez qu'on reprenne cette discussion après? Qui devrait être jugé pour crime contre l'humanité? Daesh ou Merkel? Merkel? Mais elle ne sera jamais jugée contre lui. Pourquoi? Parce qu'elle va se réfugier derrière la conscience. Mais pas du tout. Mais parce que justement, on est esquinté par 2000 ans de christianisme qui est le grand responsable de la situation d'aujourd'hui. On n'arrive plus, on est tellement, tellement fondant devant la morale qu'on ne se rend pas compte que parfois, la loi est plus importante que la morale. La loi, c'est mon devoir face à mes propres citoyens. Je fais rentrer chez eux une bombe biologique.
Bon. Tout ça.
Comment?
C'est un peu le monsieur qui disait, moi je ne vais pas avoir d'enfant parce que j'ai vu dans mon futur que celui qui va naître, ça va être un tyran.
Oui.
Hachem, il dit, mais c'est pas tes affaires. Fais tes enfants, mais respecte le truc,
mais et après, ça moi, je n'a rien à voir. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Mais parce que là-bas, c'est une présupposition et l'homme peut toujours faire teshuva. L'homme peut toujours faire teshuva. En plus, là-bas, on parle de juifs et on ne parle pas de terroristes. On va voir des gens qui ont clairement dit ce qu'ils allaient faire parce qu'ils l'ont déjà fait. Qu'ils ont déjà un dossier comme ça de tête coupée et de centaines de milliers de jeunes filles de 6-7 ans violées à mort. Comme toutes les filles Yazdim, où on les viole jusqu'à la mort. Mais c'est pour des gens comme ça que vous avez de la pitié? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre.
C'est pour les autres.
Mais les autres, eux, sont cachés à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en péril vos petites filles de 6 ans.
Dresden.
Comment?
Dresden.
Quoi?
Le bombardement de Dresden pendant la guerre.
Oui.
Où il y a eu, je ne sais pas, des dizaines de milliers de morts, mais c'est où Hiroshima a été la même chose.
Bien sûr.
Pour arrêter la guerre.
Bien sûr.
Mais il faut voir aussi le déséquilibre qu'il va y avoir après. Tu vas faire rentrer toute la population. Après, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? qui sont dans les. Que
ce soit en Belgique. Ça parce qu'il y a pas
d'enfants. Il faut valider qu'il même s'il n'y a pas de terrorisme.
D'accord, mais mieux vaut une Allemagne sans enfants qu'une Allemagne musulmane, comment voilà. Vous ne pas voilà. L'Allemagne, elle est protestante, elle est catholique, elle est chrétienne. Mais pour elle, mais justement, donc pourquoi elle l'impose? Qu'elle le fasse, elle, dans sa maison. C'est ça la différence entre la morale et la loi. Tu veux le faire, mais fais-le, il n'y a pas de problème. Mais fais-le. Fais-le. Mais ne m'oblige pas à accepter ta loi. Ton choix moral ne peut pas devenir une loi. C'est ça ce qui se cache derrière ça. La morale et la loi sont deux choses. C'est ta conscience, fais-le dans ta maison, pas dans la mienne. Vous comprenez? C'est ça le grand problème.
D'un côté, les Syriens quittent la Syrie.